France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, il indiquait sur sa carte de visite « ornithologue et rythmicien ». Si on ne saurait contester ces informations, elles ne doivent pas occulter une autre activité également inscrite sur ladite carte qui valut à Olivier Messiaen une reconnaissance internationale, compositeur de musique, incontestablement un des plus importants du XXe siècle. Il aurait pu ajouter même « catholique tant sa foi, auréole et nourrit l'ensemble de son œuvre, œuvre dont la majesté mais aussi la violence » tranche avec l'apparence modeste de l'homme au béret et aux chemises à fleurs. Pour approcher un artiste et un homme souvent déconcertant, découvrir ou mieux connaître sa musique, je reçois Gaëtan Puot qui vient de lui consacrer une biographie chez Bleu Nuit Éditeur. Olivier Messiaen à l'orgue Cavaillé-Coll de l'église de la Sainte Trinité à Paris, un enregistrement de 1956, c'était un extrait de l'Ascension, transport de joie d'une âme devant la gloire du Christ qui est la sienne, une œuvre créée par Messiaen lui-même en 1935. Bonjour Gaëtan Puot.
Bonjour Philippe Venturini.
Vous êtes donc l'auteur de cette biographie pour Bleu Nuit Éditeur consacrée à Olivier Messiaen. Vous êtes professeur d'économie et vous avez fondé et dirigé durant 20 ans le festival Messiaen au pays de la Meije, dans les Hautes-Alpes. Et vous expliquez en introduction de ce livre que vous comptez transmettre votre vision de Messiaen, compositeur dont vous avez fait la connaissance dans les années 80.
Ah oui, oui, oui. J'ai rencontré Messiaen effectivement en 1987 en fait, mais je connais l'œuvre de Messiaen depuis mon adolescence en fait. J'ai découvert grâce à un prof de musique qui nous a fait écouter des enregistrements de l'époque, c'était quand même très rare. Et par la Turangalila et les trois petites liturgies, donc ouais. Là, vraiment j'étais fasciné. Ouais. Et puis, j'ai acheté des livres sur Messiaen, les quelques livres qui sortaient à l'époque. Livre de Pierrette Marie, notamment, qui était ma première. Et puis, les entretiens qu'il avait donnés à Claude Samel, en fait.
Tout à fait, ouais.
Et là, j'avais lu, effectivement, c'est ça qui a fait tilt dans ma vie et qui m'a amené à créer un festival, c'est qu'une œuvre que j'avais trouvée passionnante est Expecto Resurrectionem Mortuorum, et il s'étonnait qu'elle soit jouée face à la Meije, alors je connaissais absolument pas la Meije.
La Meije, c'est un massif montagneux, faut préciser.
Montagneux, dans
très
les
impressionnant,
Alpes,
oui,
très
avec,
impressionnant.
Avec un glacier.
Moi, je suis nantais. Mon univers, c'était les plages. J'avais jamais mis les pieds en montagne. En 87, par les circonstances personnelles, j'ai découvert en 84, quelques années plus tôt, le site de la Meije. Là, quand j'ai eu l'occasion de le rencontrer, je lui ai dit, écoutez, maître, vous avez écrit que et expecto devait être interprété face à la Meije. Et ça m'a fait tilt dans mon esprit.
On va, si vous le voulez bien, Gaëtan Puyot, donner juste quelques éléments biographiques, mais vraiment le minimum, pour cerner un peu Olivier Messiaen, qui est né en 1908, donc à Avignon. Père qui est professeur d'anglais, qui traduit Shakespeare. Ouais. Sa mère, Cécile Sauvage, poétesse, qui influe. Ces deux éléments influenceront quand même la formation intellectuelle et artistique du jeune Olivier Messiaen, apparemment extrêmement doué pour la musique, qui entrera très jeune donc au Conservatoire de Paris et qui tiendra à partir de à peine 23 ans les orgues de la Trinité qu'on vient d'entendre pendant une soixantaine d'années.
Exactement, tout à fait.
Donc, orgue, la liturgie, ça permet déjà quand même de cerner la personnalité de Messiaen et sa foi catholique inébranlable.
Tout à fait. Il avait l'habitude de dire que son livre de chevet, c'était « L'imitation de Jésus-Christ », qui est un livre écrit par un moine du XVe siècle. Mm-hmm. Donc, et ça, c'est vrai. Je pense que c'est absolument vrai. Mm-hmm. Donc, effectivement, ça a été... Mais d'une manière non conventionnelle. Absolument non conventionnelle. Donc, c'est ça qu'il faut aussi retenir. C'est-à-dire que, de même que quand il parlait de la joie, c'est une joie non bourgeoise, je crois que sa foi, c'était pas une foi bourgeoise. C'était pas une foi convenue. C'est une voie personnelle et il la transmettait dans son œuvre par une exaltation spirituelle, véritablement impressionnante. Donc,
oui, c'est ce qui est étonnant chez Messiaen, c'est à la fois le catholique convaincu qui compose une musique souvent joyeuse, mais une joie qui est exaltée, qui n'a rien à voir avec la musique religieuse d'un Bach ou d'autres compositeurs, qui peut être effectivement plus grave, plus sombre, plus solennelle. Et puis, l'apparence, je l'ai dit en introduction, assez modeste de cet homme,
personnage,
qui pouvait construire effectivement des musiques qui avaient la majesté du massif de la Meije, quand même.
Exactement. Non, mais c'est sûr. Et je crois que ce qui est important dans sa formation, évidemment, c'est à sa foi, mais aussi c'est une démarche personnelle. Bien sûr, il a été pendant 10 ans élève du Conservatoire de Paris, mais comme il l'a très bien dit, c'est aussi un autodidacte. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a les principales bases de son langage musical, il les a acquis par son travail personnel, des choses qu'il n'a pas étudiées au conservatoire. Mmh. Le plein chant, les rythmes hindous, la musique balinaise, tout ça, c'est trois éléments absolument décisifs, à mon avis, dans son style musical, mais qu'il a acquis par ses recherches personnelles.
L'orchestre symphonique du Südwestfunk de Baden-Baden sous la direction de Hans Rosbaud, c'était la création, le 16 octobre 1960 à Donaueschingen de Chronochromie d'Olivier Messiaen. Gaëtan Puyot, Chronochromie, ça nous permet de parler de la couleur, comme son nom l'indique, donc la couleur du temps.
Couleur du temps.
Voilà, couleur, élément très important, et le temps également dans la musique de Messiaen, parce que c'est vrai que Messiaen abolit un peu cette notion du temps dans sa musique, et c'est une modernité quand même très singulière que celle de Messiaen, et le rapport qu'il avait avec l'avant-garde était assez particulier.
Oui, on peut dire que effectivement, ces liens avec l'avant-garde, on peut, je dirais, l'aborder sur deux, à mon avis, deux aspects. D'abord, l'enseignant. Ça veut dire que le pédagogue. Je crois que c'est quand même aussi un des grands traits du personnage. Son optimisme extraordinaire qui fait que l'optimisme du pédagogue.
Ouais. Professeur au conservatoire de Paris
dès
1941.
Dès 41. Ouais. Jusqu'en 78, d'abord d'harmonie, d'analyse, puis très tard, en 66, de composition. Et puis là, il va. Comment se fait-il que tant de grands du XXe siècle se soient trouvés un jour dans sa classe, tout simplement parce qu'il avait, ces jeunes l'avaient choisi. Mmh. Il l'avait choisi parce qu'il connaissait sa capacité à rentrer en relation et à leur faire découvrir leur vocation. Donc ça, c'est extraordinaire. Et puis son lien avec l'avant-garde, effectivement, ses conférences à Darmstadt, très tôt, dans les débuts des années 50. Mais jamais il ne va céder aux sirènes de l'atonalisme, du sérialisme.
Mmh. On voit que c'est un compositeur totalement indépendant,
impossible à ranger dans une case, ouais. Mais toujours à la recherche de la découverte musicale.
D'ailleurs, oui.
Ça, c'est très important. C'est un aspect.
On trouve dans ses écrits où il s'en prend aux paresseux de la musique qui font du sou.
Date de la fin des années 30.
Oui, exactement.
Ouais. Les sous Ravel, les sous Forêt.
Voilà, exactement.
Donc, ça, il déteste ça. Ouais. Et un des traits que j'ai perçu dans ses élèves, dans des dialogues que j'ai pu avoir avec Tristan Murin et Georges Benjamin, c'est qu'il leur a permis la découverte de Ligeti, par exemple, qui était un compositeur à l'époque tout à fait d'avant-garde. Hein, donc, de Xenakis, évidemment, qui a été son élève, donc, et de Boulez, effectivement. Donc, sa classe, c'était un lieu de dialogue et d'écoute de la musique d'avant-garde. Hein, donc, ça, c'est clair et net. Mais lui, il avait son univers.
Oui, et rythme ici, on a pu l'entendre dans cet extrait aussi de Chronochromie, et l'emploi toujours singulier que Messiaen fait des percussions, toujours une sorte de déploiement de percussions absolument phénoménal.
Il trouvait dans les percussions, les percussions, bien sûr, sa référence à l'Asie, hein, qui est absolument aussi cruciale. On a parlé tout à l'heure de Bali, mais la résonance, parce que son œuvre s'inscrit dans la résonance harmonique, la résonance des percussions avec quelque chose pour lui de magique. Il essaye de capter cette magie qu'il restitue dans Chronochromie ou dans Et expecto. Thank you.
extrait des 6 petites esquisses d'oiseaux créées en 1985 par Yvonne Loriot et enregistrées en 1987 par Yvonne Loriot. C'était la grive musicienne d'Olivier Messiaen. Gaëtan Puyot, après avoir évoqué la foi, les rythmes, la couleur chez Messiaen qui entendait des accords bleus, violets, tout ce qu'on veut, il faut évidemment parler des oiseaux qui sont absolument indispensables, éléments constitutifs de son langage, lui qui se présentait comme ornithologue.
Effectivement, mais ça m'a toujours stupéfié qu'il ait pu consacrer 11 années de sa vie. 11 années, entre 52 et 63, il n'a composé que des œuvres à base de matériel recueilli sur son carnet de notation de chants d'oiseaux.
Œuvres pour piano, pour orchestre.
Orchestre, exactement. Ouais. À partir des années 63, il a mixé le chant d'oiseau avec, l'inspiration, spirituelle. Mais pendant 11 ans, il n'a composé que des œuvres. Voilà. Ouais. Donc, ça m'a interrogé.
Donc, il se promenait avec son papier à musique et il notait.
Imaginez l'un des plus grands compositeurs du XXe siècle et peut-être de la musique, passant son temps à 4 heures du matin dans les fourrés, dans des conditions inconfortables, inimaginables, à noter les chants d'oiseaux. Donc, parcourant la France entière ensuite.
Et d'autres pays après.
Et d'autres pays ensuite. Oui. Parce qu'il est allé jusqu'en Nouvelle-Calédonie pour la forêt des Gérigones de l'Ange dans Saint-François. Enfin, c'est inimaginable. Il a été en Iran, il a été en Israël, il a été partout. Alors pourquoi? C'est la question que je me suis posée. Et il y a quelque chose qui m'a toujours beaucoup interpellé, c'est quand il dit « le chant d'oiseau survivra à l'homme ». Ça pose quand même une question sur sa conception de l'avenir de l'humanité.
Mais aussi Messiaen, grand amoureux de la nature. On a évoqué la montagne tout à l'heure.
La montagne, bien sûr.
Il y a le Dauphiné qui a eu une place importante dans son enfance, aux environs de Grenoble, où il a grandi.
Exactement, oui. Ouais. Il a découvert la montagne, effectivement. Je crois que ça fait partie de... J'ai repris dans le livre une expression que j'aime bien, la Malionia Dei, c'est-à-dire les merveilles de Dieu pour lui. Et c'était quelque chose... Il y a une relation à l'homme qui est quand même assez particulière chez lui. L'homme est quand même marqué par le péché originel, même si son œuvre est optimiste. C'est ça qui est... J'ai noté une phrase, par exemple, qu'il a sur le massif de la Meije. S'il admire le massif de la Meije, c'est parce qu'il n'a pas été souillé par l'homme. C'est quand même
son côté immaculé, oui.
Exactement. Ouais. Donc, il y a une recherche d'un paradis perdu.
Et compositeur écologique, écrivez-vous également?
Moi, je pense. Véritablement stupéfiant. Parce que comment avoir conçu une musique qui ne repose que sur le chant d'oiseaux? Le réveil des oiseaux, il n'y a que des oiseaux. Donc, chronochromie, on a entendu à l'instant. Il y a énormément de chants d'oiseaux qu'on a entendu à l'instant. Et toutes les œuvres. Le catalogue d'oiseaux, 13 pièces, 3 heures de musique, que des chants d'oiseaux. Donc, évidemment, retranscrit, il y a un travail extraordinaire de création musicale autour du chant d'oiseau.
Parce que, est-ce qu'on pourrait dire, Gaëtan Puyot, que c'est une musique descriptive, une musique à programme, ou ce serait au contraire beaucoup trop réducteur?
Beaucoup trop réducteur. C'est pas naturaliste non plus. Parce qu'il y a un formidable travail de création, justement, musicale, d'imagination, quand même. Voilà, pour que ça fasse un monde séduisant, quoi, véritablement. Voilà.
Le Christ, lumière du paradis, la fin des éclairs sur l'au-delà d'Olivier Messiaen, l'Orchestre Philharmonique de Vienne, dirigé par Ingo Metzmacher. Gaëtan Puyo, c'est une œuvre qui fut créée de façon posthume en 1992 à New York. Ouais. C'est une commande pour les 150 ans de l'Orchestre de New York. Zubin Mehta était venu voir Messiaen pour lui commander cette œuvre, dont il n'aura pas la joie d'assister à la création, de l'entendre. Ouais. Là, une autre dimension de la musique de Messiaen. Là, on n'est plus dans le rythme, on n'est plus dans les profusions, mais une sorte de musique totalement contemplative.
Je crois qu'au fond, c'est le lien avec, si on prend ses premières œuvres, l'Ascension, les offrandes oubliées, finalement, on retrouve à la fin quelque chose d'assez proche des offrandes oubliées, en fait. Ça veut dire que les trois mots de sa musique, c'est, on a parlé du rythme, de la couleur, mais il y a aussi l'émotion, la sincérité, et la mélodie, d'abord. Oui. L'harmonie est en service de la mélodie. Et ça, on le retrouve constamment quand même, même dans les chants d'oiseaux. Il y a toujours une harmonisation au service d'une mélodie qui est celle de l'oiseau.
Et une grande sensualité aussi dans la musique de Messiaen.
Ben c'est évident.
À tel point qu'on lui a parfois reproché d'avoir un goût un peu suspect.
Certains, je ne citerai pas non, aujourd'hui, mais c'est vrai, oui. Non, mais j'oserais même dire qu'il y a un érotisme de la musique de Messiaen.
Tout à fait, si Voilà, donc, c'est ce qui est singulier dans cet univers, qui est à la fois... C'est le cantique des cantiques en permanence,
exactement,
en fait.
Exactement, les cinq rochons ne sont pas loin, la Turangalila, malgré tout. Ah oui, enfin, cette fameuse trilogie de Tristan, qui est quand même absolument sublime.
Et comment est-ce que, justement... Il expliquait ce caractère à la fois lumineux et sensuel de sa musique. Pour lui, c'était comme ça, c'était son unique
Je crois façon que ça fait partie de sa personnalité. Il cherchait une musique, comme on l'a dit tout à l'heure, l'amour compte beaucoup dans sa musique. Quelque chose de joyeux, mais de non conventionnel. Quelque chose véritablement, une expression... débridé finalement de sa passion, sa passion amoureuse, mais aussi sa passion, spirituelle. Hein. Quelque chose de non convenu, quelque chose de violent parfois. Des éruptions, quoi, véritablement. Et puis des passages d'une grande sensualité, effectivement.
Comme si
une grande douceur, effectivement, cet adieu, mais qui est absolument resplendissant.
Très bien, merci beaucoup Gaëtan Puyo. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Olivier Messiaen, qui vient de paraître aux éditions Bleu Nuit Éditeur. Il y avait à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Valérie Lavalard, attachée de production Annick Aumier. La semaine prochaine, je serai en compagnie de Sylvie Pébrier. Nous essaierons ensemble de réinventer la musique dans ses institutions, ses politiques et ses récits. Rien que ça. D'ici là, excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.